Bien, bonjour. Lors de la séance précédente, j'avais donc présenté la figure et l'œuvre de Sergueï Pavlovitch Tolstov, celui à qui le grand explorateur des antiquités du Khorezme. Et avant de passer à une présentation plus détaillée des principaux sites période par période, j'avais donc tenté une espèce de bilan rétrospectif en signalant les points sur lesquels l'œuvre de Tolstov avait été critiquée. Je m'étais étendu sur deux points, le premier étant le schéma marxiste de périodisation et le second, les problèmes de chronologie absolue. Il me reste deux points que je voudrais aborder aujourd'hui, que je définirai comme la tendance chorasmocentrique et enfin la tendance aux surinterprétations religieuses. Alors, j'ai déjà fait allusion au problème du chorasmocentrisme. Tolstov n'a jamais travaillé qu'au chorasme. Pas tout début de sa carrière, il avait participé à d'autres missions, mais hein, le chorasme, ça a été sa vie. Et évidemment, il s'est identifié au chorasme, il est probablement devenu le plus chorasmien des chorasmiens, ce qui est tout à fait normal, étant donné qu'avant lui, le chorasme, comme objet historique, n'existait tout simplement pas. Alors, bon, ça a évidemment laissé des traces dans ses interprétations, dans un schéma idéologique fortement marqué par l'époque, disons, la propagande anti-impérialiste, il a projeté rétrospectivement cette propagande en faisant du chorasme un héros de la lutte anti-impérialiste. Donc, le chorasme aurait été l'agent principal de la lutte contre des peuples centra-asiatiques contre l'impérialisme perse, puis l'impérialisme grec, puis l'impérialisme arabe, et au contraire de cela, la base arrière de l'Empire couchant. Bien. Tout n'est pas complètement faux, puisqu'on avait vu que, effectivement, c'est la seule ancienne région dominé par l'Empire achéménide, où Alexandre n'est pas allé et n'a même pas envoyé d'armée. Sur l'impérialisme perse, on va voir que les choses ne sont pas si claires. J'ai déjà mentionné l'idée qu'il avait émise, qu'il avait existé en fait une confédération dynastique unissant les souverains du Khorezm, les Arsacides et les Couchans. C'est-à-dire les Arsacides et les Couchans, les deux principales puissances iraniennes qui ont succédé au pouvoir grec dans les anciens pays achéménides. Alors, dans cette confédération, la dynastie du Khorezm, qu'il appelle la première dynastie du Khorezm, antérieure au IVe siècle, qu'il appelle la dynastie Siavouchid, je vais dans un instant expliciter ce terme, cette dynastie aurait joué en quelque sorte le rôle de branche aînée. Et donc, c'est en ces termes, et non pas en fonction d'une emprise qui serait venue du Sud, qu'il faut comprendre son point de vue par rapport à l'Empire couchant. Pour lui, le Khorezm faisait partie de l'Empire couchant, et les nombreuses monnaies couchanes retrouvées au Khorezm témoigneraient de ce que le Khorezm était inclus dans la sphère de circulation monétaire couchane. Ce point de vue a été considérablement révisé par ses successeurs. Mais de son point de vue, cette inclusion du Khorezm dans l'Empire couchant ne signifiait nulle subordination, bien au contraire, ça aurait été une espèce de structure confédérale où le Khorezm aurait joué le rôle de branche aînée. Alors, la question des surinterprétations religieuses mérite qu'on s'y arrête vraiment assez longuement. Tolstov a admis, avec enthousiasme, que le Khorezm avait été l'un des premiers pays gagnés par le zoroastrisme. Il souscrit à l'identification du Khorezme avec l'Airianam Waedja de la Vesta, c'est-à-dire le pays des Ariens, c'est-à-dire le pays mentionné en tête et dans la position la plus éminente dans la liste des pays gagnés par la religion zoroastrienne. Cette identification du Khorezm et de l'Airianam Waedja était d'ailleurs à l'époque largement partagée par l'iranologie occidentale. C'est seulement dans les années 80 qu'elle a vraiment été remise en cause, et à vrai dire, aujourd'hui, plus personne n'y croit. Mais à l'époque de Tolstoï, c'était le point de vue de Henning, c'était le point de vue de Marquardt, c'était le point de vue de Niebuhr, c'était le point de vue de tous les grands spécialistes, et de Benveniste. C'était le point de vue de tous les grands spécialistes de l'Avesta. Bien, donc, très bien, le Khorezm, l'une des patries originaires du zoroastrisme, pour lui, le zoroastrisme n'est pas véritablement ce qu'en fait l'iranologie occidentale. C'est-à-dire qu'il le dit très explicitement, on a voulu faire du zoroastrisme une réforme éthique par rapport au fond religieux indo-iranien. Non, le zoroastrisme comprend toutes sortes de traits de mentalité archaïque remontant au stade de la communauté primitive et qui se traduirait notamment par des aspects totémiques. Sur l'existence de... par certains côtés, il rejoint certaines tendances actuelles de la recherche puisque... comme vous savez, un certain nombre de spécialistes actuels du zoroastrisme, notamment Jean Kellens, ne veulent pas y reconnaître un aspect de réforme éthique, du moins jusqu'à une période assez tardive, et que d'autre part, d'autres chercheurs comme Philippe Gignoux ont beaucoup insisté sur l'existence de traits, alors on dit plus totémique aujourd'hui, on dit chamanique, bon, c'est, dans le zoroastrisme même assez tardif. Bien. Alors, Tolstoï veut retrouver ces traits archaïques sous une forme particulièrement exacerbée dans ce qu'on peut saisir des manifestations khorasmiennes du zoroastrisme. Alors, quand on lit aujourd'hui les spéculations religieuses de Tolstoï, les bras vous en tombent. C'est quand même un peu un fatras. On ne reconnaît pas le grand Tolstoï, celui qui écrit sur les canaux, celui qui écrit sur les forteresses. Cette faiblesse vis-à-vis des concepts de l'anthropologie a été pendant longtemps peu ou prou celle de toute l'école soviétique d'anthropologie. Et là-dessus, il y avait eu des... chez nous, Boris Godelier, par exemple, avait bien mis le doigt sur la question. Cette anthropologie soviétique, qui, comme je l'avais expliqué dans le cours précédent, est passée par une profonde crise dans les années 30, au moment de la liquidation des anciennes écoles folkloristes, elle apparaît très scrupuleuse dans la description du terrain, y compris dans des aspects qui ne sont plus aujourd'hui pris en compte par l'anthropologie moderne, comme l'anthropologie physique. Alors, on a toutes sortes de mesures de crâne dans les traités soviétiques d'anthropologie. Cette qualité empirique, comme tous les archéologues de l'Asie centrale, j'utilise moi-même la littérature ethnographique soviétique, notamment sur les régions du Pamir et du Badakhchan, où on peut trouver toutes sortes d'observations extrêmement éclairantes pour le matériel archéologique que nous fouillons. Mais cette qualité dans la description du terrain va de pair avec une réelle pauvreté théorique et notamment des références très dépassées et d'un éclectisme mal combiné. En fait, la référence ultime reste ce qui avait été la référence de Marx et d'Engels, c'est-à-dire l'Américain Morgan. Ses théories sur le matriarcat, le totémisme, alors là, on trouve ça à toutes les pages, notamment chez Tolstoï. Et cette anthropologie est restée complètement à l'écart des renouvellements de l'école anglo-saxonne, Malinowski, Margaret Mead, et des renouvellements français, notamment. Alors, un autre facteur aggrave la situation du point de vue qui est le nôtre. C'est que les chercheurs soviétiques ont longtemps été mal à l'aise avec le zoroastrisme. D'un côté, il y a la fierté de mentionner que les savants occidentaux font naître Zoroastre sur le territoire de l'URSS. Donc, ça fait un grand homme de plus. Voilà. On nasz człowiek, il est chez nous. Ben. Mais d'un autre côté, il existait un débat imposé par le parti sur le caractère progressif ou réactionnaire de Zoroastre et du zoroastrisme historique. Il y avait des congrès qui devaient statuer sur le fait de savoir si Zoroastre était progressiste ou réactionnaire. Le zoroastrisme historique est par ailleurs une idéologie qui, dans le schéma marxiste dont j'ai parlé la fois précédente, cette idéologie avait couvert et justifié des systèmes sociaux d'abord esclavagistes, puis féodaux, et de surcroît, pour aggraver le cas, surtout en Iran, pays perçu comme l'ennemi héréditaire des peuples d'Asie centrale et une menace impérialiste durable. Alors, ceci au moins en partie pourrait expliquer que un certain nombre de chercheurs soviétiques ont à tout prix cherché à trouver des spécificités dans le zoroastrisme centra-asiatique. Et si possible, de couvrir ces spécificités par un nom emblématique. Alors, le nom que Tolstov et ses successeurs ont mis en avant pour concentrer tout ce qu'il y avait eu d'original dans le zoroastrisme centra-asiatique, c'est le nom de Siavush. Je vais parler dans un instant. C'est surtout donc l'école Tolstov et ses successeurs. Ça a été un moment une tentation de l'école de Saint-Pétersbourg avec l'article de Diakonov paru en 1951 où il a essayé d'accrocher à la théorie tolstovienne de Siavush des peintures nouvellement découvertes à Penjikent. Après quoi, les savants de l'Ermitage se sont rabattus sur un autre candidat qui est Zahak, un héros négatif, lui, de la Vesta, dont certains d'entre eux, notamment Alexandre Belenitsky, ont voulu faire une ancienne divinité chtonienne dont le culte aurait été particulièrement durable en Asie centrale. Alors, voilà, par exemple, on identifiait Zahak sur ses monnaies frappées dans la région de Kaboul, comme vous savez sans doute, si vous ne le savez pas, je vous l'apprends, Zahak est décrit dans le livre des rois comme ayant des serpents qui lui sortent des épaules, et avec ces serpents sont nourris de cervelle humaine. Alors les serpents, on les voit là, bon, sauf qu'aujourd'hui on sait que ce n'est pas des serpents, c'est la stylisation de rubans royaux, et ce personnage n'a rien à voir avec Zahak, c'est un souverain turc de la région de Kaboul au 8e siècle. Et alors, on s'est beaucoup excité sur cette magnifique statue ramenée de Khotan par l'explorateur russe Petrovski avant la Première Guerre mondiale, parce que là, elle était longtemps exposée au musée de l'Ermitage, elle a même voyagé dans des expositions internationales, elle est venue à Paris à l'exposition Serinde au Grand Palais. Alors, évidemment, c'est incontestablement Zahak. Vous voyez les serpents qui sortent des épaules, qui s'enroulent autour du cou, qui repassent par-dessus l'oreille. Il a la gueule ouverte et il tenait quelque chose dans ses mains. Ben, il tient évidemment dans ses mains une pauvre créature humaine qui s'apprête à manger ou à donner à ses serpents. Sauf que, et moi-même, j'ai parfois mentionné... j'ai parfois mentionné cette figure. Sauf que nous savons depuis 2 ans que c'est un faux. Je sais grâce à Pavel Lourier, présent ici dans la salle, et qui donne actuellement un cycle de conférences au collège, que cette œuvre, qui vraiment pourtant faisait une excellente impression, est condamné par les analyses de thermoluminescence. C'est de la fin du XIXe siècle. C'est l'un des produits de la fertile imagination d'Islam Haroun, le faussaire qui avait trompé les meilleurs spécialistes de manuscrits sanscrits de cette époque, bien qu'étant lui-même illettré. Et on sait qu'Islam Haroun avait commandé des œuvres d'art. C'est très intéressant. Ça ouvre des perspectives tout à fait inattendues sur le niveau de connaissance que des paysans illettrés à Kashgar pouvaient avoir au XIXe siècle sur le livre des rois de Firdousi et ses traditions. Mais évidemment, ça n'apporte plus rien quant au culte de Zarak en Asie centrale. Zarak est en train de perdre les dernières positions qu'il occupait. Alors revenons et examinons donc le cas de Siavush. Il existe, et Tolstov ne partait pas de rien, il existe une base factuelle pour considérer que Siavush est une figure importante de la mythologie héroïque iranienne et notamment en Asie centrale. Dans l'Avesta, Siavush est un héros sacrificateur, et dans l'épopée iranienne, il devient un prince malheureux qui est un chaînon de la lignée royale, mais qui n'a pas pu régner car il a été exilé au Touran par la jalousie de sa belle-mère et tué là-bas au Touran, c'est-à-dire les pays d'Asie centrale, et tué là-bas par traîtrise. Donc c'est un martyr. Bien, ça c'est la tradition. Alors, le voilà dans un manuscrit persan tardif. Je vais en reparler. Sa belle-mère, telle Phèdre, l'a accusé d'avoir voulu abuser d'elle et il subit victorieusement l'ordre d'Ali du feu pour prouver sa bonne foi. Alors, par ailleurs, on sait qu'au Xe siècle, à Boukhara, Siavush était l'objet de certaines pratiques cultuelles. On le sait par le chroniqueur Narshahi. On lui sacrifiait un coq au Nouvel An. Il existait un cycle de chants de lamentation sur la mort de Siavush. Ça s'est attesté dès la fin de l'époque sassanide à Merve, au 7e siècle, dans la liste des œuvres du poète Barbod. L'une de ses chansons s'appelait « Ken et Siavush ». Alors qu'on a voulu traduire, qu'on a longtemps traduit « la vengeance de Siavush ». Mais ce n'est pas ça que ça veut dire en persan. Ça veut dire « la vengeance pour Siavush ». C'est en fait, ça célèbre en réalité les exploits du fils de Siavush, qui l'a vengé. À Boukhara, toujours, on vénérait l'arbre issu de son sang, quand il avait été martyrisé, et on en faisait le fondateur légendaire de Samarcande et de Boukhara. Bien. Enfin, pour en venir au Khorezme même, Biruni, Al-Biruni, dont j'ai parlé la dernière fois, fait de Siavush l'ancêtre de la dynastie nationale. Dynastie qu'il fait remonter 40 générations avant Alexandre, ce qui pourrait nous amener au 8e, éventuellement jusque vers 1000 avant Jésus-Christ. Et ses prétentions ses prétentions à descendre de Siavush sont confirmées par les monnaies, puisque on sait au 8e siècle, on a deux souverains qui frappent monnaie au Khorezm, dont l'un s'appelle Shaouch, c'est une forme locale de Siavush, et l'autre s'appelle Shaouchfan. En graphie historique, Siawarchfarn, c'est-à-dire celui qui a le roi-ra de Siavush, c'est-à-dire le principe de la légitimité royale. Donc, il y a incontestablement une base. Bien. Alors, à partir de ces bases, Tolstov, dès son livre « Drevni Khorezm », paru en 1948, construit tout un édifice pour faire de Siavush une divinité centra-asiatique héroïsé. Outre les faits que je viens de mentionner, il s'appuie sur sa propre exégèse du texte de Firdousi, du Livre des Rois. Exégèse particulièrement raffinée. Siavush, n'est-ce pas, la mère de Siavush est une fille qu'on a trouvé dans la forêt, à la frontière entre l'Iran et le Touran. Et donc, c'est une nymphe, selon Tolstov. Et donc, Sirvouche a un caractère chthonien qui le rattache aux puissances souterraines. Puis, par ailleurs, pour confirmer ses affinités chthoniennes, il aurait, toujours selon Tolstov, dans son nom, le nom Warch, qui est le nom du fleuve Oxus. Bon, tout ça, c'est totalement, fantaisiste, mais bon, Tolstov partait de là. Par ailleurs, Sirvouche subit l'ordalie, a toujours un cheval noir, et sur lequel il subit l'ordalie du feu. Voilà, illumination. Monté sur un cheval noir, il manifeste ses affinités de naissance avec les puissances souterraines, mais passant à travers le feu, il se sublime en divinité solaire. Je dis, ce que je dis, c'est des citations de Tolstov. Ce n'est pas moi qui invente, c'est ce que Tolstov écrit. Par ailleurs, pour corser le tout, au moment où Sirvouche meurt, et au moment où il est tué, lui naît un fils qui va le venger, Keikhosro. Ce qui ne fait que confirmer que Sirvouche est un dieu de la nature mourante et renaissante. Alors, ces idées ont connu un nouveau raffinement avec, dans l'article de Diakonov paru en 1951, Diakonov, qui était un, disons, qui du point de vue linguistique était plus averti que Tolstov, savait que l'étymologie du nom de Sirvouche, enfin, donc Sirvouche, ne contient pas le nom Warch Oxus, mais vient de la forme avestique Sia Warshan, c'est-à-dire celui qui a un étalon noir. Bien. Alors, le problème, c'est que Diakonov n'a pas compris que ce type de composé, Sia Warshan, se rattache à la classe des composés possessifs que les linguistes appellent Bahouvri, qui indiquent donc la possession de la tribu. C'est-à-dire que Sia Warshan, c'est celui qui a un cheval noir. Mais pour Diakonov, ça voulait dire tout simplement cheval noir. Et donc, voilà ce qu'il fallait démontrer. Sirvouche est une entité totémique. C'est un totem du cheval. Bien. Là-dessus, alors, le successeur, l'un des successeurs de Tolstov, Youri Rapoport, dont je vais être amené à parler, qui est celui qui a vraiment repris le flambeau des théories religieuses de Tolstov en les poussant à l'extrême. Le malheur de Rapoport, c'est qu'il était à la fois, parmi les disciples de Tolstov, probablement l'un des plus brillants et certainement le plus cultivé. Il avait une culture immense en histoire des religions, mais il travaillait dans l'isolement intellectuel. Et ça l'a conduit, sans aucun contrôle, à écrire des choses totalement échevelées. Bien. Alors, une conséquence archéologique de ces spéculations, c'est que Tolstov a voulu reconnaître l'image de Sirvouche dans à peu près toutes les images de cavaliers produites par Khorezm. Alors, on a un cavalier au revers de pratiquement toutes les monnaies du Khorezm, depuis le moment où il commençait à y en avoir, au 1er siècle de notre ère, jusqu'après la conquête arabe. Le cavalier qui porte son carquois, ici c'est un carquois, dans certains cas c'est un gorite qui tient son arc. Bon, c'est schématisé, il a les rubans royaux. Voilà, c'est l'ancêtre dynastique des rois du Khorezm, ce serait Sirvouche. Et puis, il y a des terres cuites qui représente un cavalier. Alors, c'est pareil, ce serait à nouveau Sirvouche, un cavalier de la steppe. Et Rapoport, dans développant le système à l'extrême, reconnaît dans certains ossuaires anthropomorphes à figure humaine une image héroïsée de Sirvouche, car, comme vous n'avez pas manqué de le remarquer, il a des oreilles de cheval. Et comme Sirvouche est le totem du cheval, eh bien, nous avons ici Sirvouche qui, dans le raffinement extrême apporté par Rapoport à la théorie de Tolstov, est une sorte d'Osiris, chorasmien, ou d'Adonis, c'est-à-dire une divinité de la nature mourante et renaissante dans laquelle se fondront les défunts masculins. Alors, il faut bien laisser quelque chose aux femmes. Mais il y a une candidate toute trouvée, c'est la déesse Anahita, la déesse des eaux. Et avec ça, tout le monde est content. Bon. Alors, cette construction, à vrai dire, aujourd'hui, elle n'a jamais fait l'objet, véritablement en Russie, ou très peu, de réfutations explicites. Mais, bon, c'est des choses, on n'en parle plus. Voilà. Depuis les années 80, on n'en parle plus. Alors, tacitement, en fait, elle a été démolie de l'intérieur, elle a commencé à être démolie de l'intérieur de l'expédition du Khorezm. Quand en 1977, Bella Weinberg a fait paraître son catalogue des monnaies du Khorezm, où elle a montré que le cavalier figuré au revers des monnaies n'a rien à voir avec une divinité ancestrale. C'est l'image du roi cavalier. D'ailleurs, il a la même couronne. La couronne du cavalier change avec la couronne du roi qui est identifiée à l'avers. Ici, comme par hasard, c'est Sawashfan, celui qui a le nom de Sirvouche dans son nom. Et ce type du roi cavalier est très répandu sur les monnaies à partir du 1er siècle avant notre ère, aussi bien chez les Indo-Parthes, les Indo-Scythes que les Kouchans. Et il y a d'ailleurs des prototypes dans les monnaies indo-grecques. De l'extérieur, moi-même en 1984, dans ma thèse sur les pratiques funéraires en Asie centrale, où j'ai en critiquant les théories de Rapoport, j'ai du même coup critiqué la théorie de Tolstoï sur Sirvouche. Mais enfin, comme je l'ai dit la dernière fois, la mission du Khorezm reste quelque chose d'assez sacré dans l'archéologie russe. Donc, il n'y a pas eu véritablement d'attaque frontale. Boris Marchak, la première fois que je l'ai rencontré en 1981, m'a dit « Il faut tuer Sirvouche une deuxième fois ». Il me l'a dit, mais il ne l'a pas fait. Il m'a laissé le faire. Alors, que reste-t-il aujourd'hui de Sirvouche? Bon, on ne va évidemment pas nier qu'il est une figure importante dans la littérature, dans les croyances, dans la culture de l'Asie centrale, d'ailleurs autant en Sogdiane qu'au Khorezm. Mais en réalité, on n'a pas d'indice que cette importance ait été acquise avant l'époque de la conquête arabe. C'est à mon avis à cette époque que Sirvouche est sorti de son statut de héros épique parmi d'autres, et il en est sorti pour fonder des prétentions dynastiques. C'est-à-dire qu'il était un candidat commode pour être un ancêtre de dynasties locales, parfois même d'origine turque, qui cherchait à se doter d'une légitimité iranienne. Parce que, c'est un échappé, Sirvouche. C'est un prince légitime de l'Iran, mais qui est mort au Touran et qui y a fait souche. Donc, c'est à lui qu'on cherche à se rattacher. Alors, je vois en fait un indice assez parlant dans le nom même du roi Shawashfan, en sogdien Siawashfan, qui a le roara de Sirvouche. Moi, je comprends qu'il y a le roara par Sirvouche. C'est par les descendants que Sirvouche aurait eu en Asie centrale que ce roi du Khorezm, au 8e siècle, peut se rattacher au principe de légitimité qui en fait l'un des héritiers des anciens rois sassanides. Et c'est donc, toujours selon moi, mais je suis persuadé qu'un certain nombre de mes collègues en Russie partagent mon point de vue, c'est secondairement que Sirvouche a servi à couvrir de son nom des cultes locaux, et qui au départ n'avaient rien à voir avec lui, de la nature mourante et renaissante. Bon, on sait qu'à Samarcande, j'ai eu l'occasion d'en parler dans d'autres cadres, j'aurai l'occasion d'en parler ici même, il y a effectivement, on sait qu'au moins à partir du 7e siècle et sans doute bien avant, il y a un culte annuel à un dieu qui meurt et qui renaît. Hein, bon, Je ne pense pas qu'à cette époque, bien qu'on ait écrit que c'est déjà Sihorvouche, je ne pense pas que ce soit déjà Sihorvouche. C'est bien plutôt l'héritage mésopotamien de Tammuz dans le cycle d'Ishtar. Bien, mais à un certain moment, ces cultes à ces dieux naturistes, on les a couverts du nom de Sihorvouche. Et on peut assez, à mon avis, facilement comprendre pourquoi on les a couverts de ce nom. La seule façon dont en islam, qui permet de légitimer un culte éventuellement accompagné de petits sacrifices sur un lieu de culte, c'est d'en faire un culte à un ancêtre, à un imminent défunt, un saint homme de l'islam ou un éminent héros du passé. Eh bien, c'est exactement le mécanisme qui a donné naissance en Iran aux imamzadeh et aux pires. C'est-à-dire qu'on comprend très bien qu'un certain nombre de ces lieux de culte voués en principe à des imams du passé ou à des saints hommes du passé sont en fait d'anciens lieux de culte locaux zoroastriens. On en a la preuve, en tout cas, on en a la preuve en milieu même zoroastrien, dans la région de Yazd, on a par exemple un lieu de culte à Pir Wahram, donc un saint homme qui s'appelait Wahram et qui aurait eu des apparitions. C'est tout simplement un ancien lieu de culte au dieu Wahram, le dieu de la victoire. Donc on transforme ces anciens lieux de culte en tombes. Et avec ça, le culte peut continuer. C'est sans doute ce qui s'est passé à Boukhara. Et comme Sihorvouche, à ce moment-là, était mis en avant comme ancêtre glorieux par les dynasties régnantes, et qu'en plus il avait été un martyr, on pouvait se couvrir de son nom. Bien. Alors, je termine donc, j'en ai terminé de mes, disons, de la discussion sur la réévaluation nécessaire de l'œuvre de Tolstoï. Je vais maintenant descendre davantage dans les détails à propos des différentes périodes. Voilà, et je vais avoir besoin d'aide pour passer à mon autre PowerPoint. Alors, on m'a dit qu'il faut aller en bas. Bon. Oui, alors j'ai un deuxième PowerPoint qui a été chargé là. Je n'arrive pas à l'atteindre. Bon, voilà, il faut cliquer en bas et ça fait PowerPoint 1, PowerPoint 2. Ben voilà. Ah oui, P, ah oui, d'accord. Faites PowerPoint 2. Et voilà, très bien, merci. La première période qui doit retenir notre attention, la première période, disons, où on a des sites sédentaires bien attestés au Khorezme, c'est la période que Tolstoï, par analogie avec la chronologie de la Grèce ancienne, a appelée la période archaïque. Lui, disons, il la datait 8e siècle avant jusqu'au 4e. Michele Minardi, dont j'ai mentionné la dernière fois le travail de réexamen de toute la chronologie du Khorezme, lui l'appelle la période antique 1. Bien. Et il propose une datation un peu plus resserrée et plus tardive. Il situe cette période du 6e au 4e siècle avant notre ère. Voilà les sites qui... Est-ce que ça malheureusement... Oui, là, il... il faut que je réduise un peu l'image. Et comme ça... voilà, c'est là. Voilà. voilà les sites qu'on, la carte du Khorezm et les sites qu'on peut attribuer à cette période. Voilà. Alors, en gros, bon, on pourrait aussi bien, étant donné les siècles qui correspondent à cette période, on pourrait aussi la définir comme achéménide. Bien. Chronologiquement, ça correspond à l'époque achéménide. Mais nous allons voir à l'examen du matériel qu'il faut être prudent dans l'emploi du terme. Antérieurement à cette période, ce qu'on a au Khorezm, ce sont des sites qui ne sont pas pérennes, de chasseurs-pêcheurs, avec une petite agriculture, mais sans irrigation majeure, et par ailleurs des groupes nomades intrusifs, et pas de construction monumentale importante. À partir du VIe siècle, bon, selon Tolstov, c'était un ou deux siècles avant, sont développés simultanément deux grands systèmes d'irrigation. L'un sur la rive gauche, c'est le bras qu'on appelle le Daudan, qui est donc, comme beaucoup de grands canaux en Asie centrale, en partie naturel, en partie recreusé, et qui se jette dans ce lac du Sarikamish dont j'ai parlé la dernière fois, dont l'émissaire est justement ce fameux cours de Luzboy qui rejoint la mer Caspienne, mais qui à l'époque dont je parle là, ne coule déjà plus. Par contre, ici, c'est dense, on voit une dense colonisation. Et puis, par ailleurs, on utilise un bras naturel de la Moudaria côté est qui s'appelle l'Akchadaria et qui est lui-même qui est canalisé. Bien. Simultanément, bon, on identifie un réseau, vous voyez ici, de forteresses qui sont en position frontalière. On n'a rien au milieu, ou du moins rien qui ait été conservé. Alors, on suppose donc que ça correspondrait à une première structuration politique du pays, une première mise en défense, par rapport à ce qui pourrait être une pression croissante de l'élément nomade, ou peut-être en réalité une différenciation plus forte qu'à l'époque antérieure. L'époque antérieure aurait pu être marquée par une symbiose qui se serait cassée à ce moment-là, et on voit l'apparition d'une véritable frontière. Mais la structure politique locale, on ne peut pas mettre un nom dessus, puisque on n'a aucune espèce de mention d'un souverain du Khorezm, comme je l'ai dit la dernière fois, avant le moment de la conquête d'Alexandre, le moment où Alexandre effectivement rencontre le roi du Khorezm. Ça correspond à l'époque où effectivement le Khorezm est mentionné dans la liste des peuples soumis par le souverain achéménide, et on peut donc supposer, tout le monde l'a fait, que les développements qu'on voit ici apparaître sont déjà une résultante de la conquête achéménide. Mais difficile de savoir par quel mécanisme. Y a-t-il eu véritablement colonisation ? Probablement pas. Y a-t-il même eu des garnisons ? On n'en sait rien. Est-ce que c'est simplement un effet d'attraction ? En tout cas, une chose qui n'apparaît pas encore, alors qu'elle va apparaître dès la période suivante, c'est une capitale. On ne connaît pas pour cette époque de capitale au Khorezm. Il y a des sites assez importants, mais on ne voit pas de site qui pourrait s'imposer. Enfin, et notamment, en position centrale, on n'a rien. Alors, en fait, pour cette époque, une seule forteresse de grande taille a été explorée. C'est Kyuzeligir qui se situe donc le réseau des forteresses de la rive gauche. Voilà, c'est ici. forteresse, bon, de taille relativement conséquente, 20 hectares. On en a repéré 3 ou 4 autres d'une taille équivalente, mais qui n'ont pas fait l'objet d'une exploration aussi poussée. Et puis tout un réseau de forteresses plus petites que vous voyez sur cette carte, marquée en losange. Alors, Kyuzeli-Gil est une fouille déjà, une fouille de l'immédiate après-guerre, donc publiée longtemps après. Donc, une fouille qui a été faite quand même selon des méthodes pas très raffinées. Et il apparaît évident que les états architecturaux. Il y a évidemment plusieurs états architecturaux successifs, mais ils ont été combinés sur les relevés. Les états n'ont pas été véritablement distingués. Alors, selon les fouilleurs, Rapoport et Vishnevskaya, la forteresse remonterait au 7e siècle avant notre ère. Minardi a proposé des arguments, notamment d'ordre céramique, pour supposer qu'elle n'est pas antérieure au 6e siècle, peut-être même au 5e. Alors, ça se présente comme un site défensif sur une butte naturelle, avec deux lignes de remparts, vous voyez, un rempart extérieur, un rempart intérieur, des remparts creux, voilà, munis d'archères, vous voyez ici, avec des tours rondes. C'est déjà une architecture militaire assez sophistiquée. Alors, les remparts creux c'est quelque chose, et les tours rondes, c'est quelque chose qu'on va retrouver longtemps au Khorezm. À l'intérieur, alors autre trait qu'on va retrouver généralement pour les sites de cette période et même des périodes ultérieures, l'espace intérieur est en fait très partiellement construit. On ne peut pas parler de ville. On peut parler d'enceinte refuge éventuellement, avec un noyau, peut-être palatial, entre guillemets, mais on ne va pas parler véritablement de ville. Alors, un certain nombre d'observations faites à Kyuzeli-Gil ont été ensuite systématisées. Je vous l'ai dit, les remparts sont creux, l'intérieur est assez peu construit, et Tolstov a défendu l'idée qu'en réalité, la population, la population, disons, militaire, habitait à l'intérieur des murs. Il suppose que pour tous les sites de cette période, ce qu'il appelle la phase des murs habités. Ça a été depuis tout à fait remis en cause. Il n'est pas quand même impossible qu'à certains moments, ces remparts creux aient pu servir de logement pour les garnisons. Parce que c'est une observation que nous avons été amenés à faire à Samarcande, sur le rempart de la ville. Le rempart est parcouru, qui est très long, aussi bien à la citadelle qu'au rempart extérieur, est parcouru d'un corridor intérieur, et ce corridor était recouvert d'une jonchée de paille. Donc, on y dormait. Et c'est probablement ces corridors qui, au moins sur certains sites, pouvaient servir de casernement. Mais bon, on ne va pas renouer avec l'idée que la population pérenne habite dans les murs. Le noyau central, bon, on dit que c'est un bâtiment palatial, pourquoi pas. Il y a au moins une pièce qui a des colonnes, celle-ci. Les bases en pierre qu'on va connaître aux époques ultérieures n'existent pas encore. Ici, ce sont des bases en briques crues et les colonnes sont en bois, ce qui va être le cas toujours au Khorezm. Tout ça apparaît en fait soudainement au VIe siècle, en même temps que l'âge du fer. Et quant à la céramique, elle présente incontestablement des affinités méridionales. Alors ici, c'est déjà en fait assez hybride, parce que certaines formes sont typiques de imitent des formes, disons, d'époque achéménide connues ou peut-être un peu pré-achéménide, connues dans les sites plus au sud, ce sont les formes du IAS II, IAS III, c'est de la céramique tournée. Alors, on voit que dans les sites qui précèdent Kyuzeligir, ces céramiques sont importées. Ici, à Kyuzeligir, ils sont fabriqués sur place, avec des adaptations locales, un engobe rouge très caractéristique, etc. Mais il est net, sur cette planche, qu'il y a déjà des formes qui sont hellénistiques. Donc, on voit que le site a eu une durée de vie assez longue, ce qui ressortait déjà de l'examen du plan, il y a évidemment plusieurs états, et il a dû durer jusque vers le 3e, 2e siècle avant notre ère. Alors, autre trait qui mérite attention, trois petits bâtiments se trouvent en plein centre du site et ils ont été interprétés comme funéraires. Voilà. On entre, dans un grand massif de briques, on entre par un étroit couloir et il y a quatre chambres disposées en carré. Alors, c'est un type, ces chambres ne font qu'un mètre carré de surface, chacune. Alors, c'est un type de disposition qu'on trouve dans les mausolées, disons, des populations nomades ou semi-nomades du Bassir Daria pendant une longue période. Donc, on a supposé que c'était aussi des bâtiments funéraires, ce qui introduit un trait qu'on a allégué plus tard pour d'autres sites du Khorezm, c'est la combinaison, en réalité, des mausolées avec les habitations des vivants. Bien. Ça, c'est assez contraire aux enseignements du zoroastrisme. Alors, on a quand même cherché ici du zoroastrisme, parce que si c'est bien funéraire, on ne peut pas mettre un corps là-dedans, sur un mètre. On ne peut mettre que des ossements déjà décharnés, en sépulture secondaire. Donc, éventuellement, dans des jarres funéraires, recueillant des ossements épars, comme on en connaît pour cette période. Alors, autre trait intéressant, au sud du bâtiment dit palatial, se dressent deux plateformes maçonnées en briques crues. L'une d'elles comprend une chambre, l'autre apparemment c'est indiqué en pointillé, donc il peut y avoir des traces. Et elles font face au sud, elles sont à l'extérieur donc, du supposé palais, et on y accède par une rampe assez monumentale qui fait 6-7 mètres de long et qui monte jusqu'à 3 mètres. Alors, évidemment, la comparaison, il y a une comparaison d'époque achéménide qui vient à l'esprit. Ce sont les deux plateformes de Passargade qui ont des dimensions, qui sont en pierre, mais qui ont des dimensions à peu près équivalentes à ces deux plateformes de Kyuzeligir. Il y en a une qui a un escalier conservé, et pour l'autre, en fait, on ne sait pas. Il y a diverses hypothèses sur la façon dont on y accédait. Alors, il y a toute une littérature sur ces plateformes. Disons, l'hypothèse tout de même qui semble tenir la route, c'est qu'elles auraient été destinées à la vénération publique du feu, le feu pouvant trouver place sur la plateforme sans escalier, et l'orang, celui qui prie devant le feu, c'est-à-dire évidemment à Passargade, on pense au roi, montant sur l'escalier de la deuxième plateforme. Et c'est ainsi qu'on a proposé, notamment Mary Boyce, mais d'autres aussi, d'interpréter les reliefs à l'entrée des tombeaux achéménides. On aurait donc ici, on aurait une vue tronquée vers le bas, on aurait le haut des plateformes. Alors, ici, le feu brûlant posé sur l'une des plateformes et le roi montant sur l'autre et priant. Alors, l'analogie peut paraître, paraît au moins intéressante. Je souscris à ce que dit Jean Kellens quand il dit que, de toute façon, quelle que soit la façon dont on interprète ça, ça n'est pas ce qu'on va appeler une scène de culte zoroastrien. Le célébrant, celui qui fait les offrandes au feu, ne peut être qu'un prêtre. C'est vraisemblablement pas dans un espace aussi public. On peut voir là, bon, la volonté de montrer le roi vénérant le feu, mais ça n'est pas un yasna, ça n'est pas une scène de sacrifice. Ceci dit, on a des traces à des époques ultérieures, effectivement, d'une vénération particulièrement spectaculaire du feu sacré par le roi. On a notamment un témoignage chez Al-Biruni, à l'époque sassanide, du roi Péroz, qui, au moment où l'Iran traverse des difficultés, se rend dans le grand sanctuaire, dans le sanctuaire principal de l'Iran, le sanctuaire des prêtres, la Dur Farbay, se fait introduire en présence du feu par les prêtres qui sont d'ailleurs réticents, et il embrasse le feu avec ses mains. Donc il y a des témoignages de ce que le roi pouvait, manifester publiquement sa vénération pour le feu. Alors, en quoi tout cela peut-il nous aider à comprendre ce qu'on a accusé les guires ? Est-ce qu'on va supposer que le seigneur qui habitait ici vénérait le feu sur ses plateformes ? Bon, c'est un peu difficile. La comparaison avec Pasargat, tout de même, achoppe sur le fait que ces plateformes ne sont pas parallèles. Elles ne sont pas faites véritablement pour fonctionner ensemble. Alors, ceci dit, il y a toute une... on a d'autres témoignages maintenant qui tendent à s'accumuler sur l'apparition, à cette même époque, disons, d'un certain nombre de lieux de culte en hauteur, sur des plateformes naturelles ou artificielles, en Asie centrale. Bon, ça correspond aussi à ce qu'écrivent Hérodote et Strabon sur le fait que les Iraniens vénèrent le feu sur des hauteurs. Donc, disons, jusqu'à preuve du contraire, j'aurais tendance à souscrire à une interprétation cultuelle de ces plateformes. Alors, voilà ce qu'on peut dire sur Kyuzeligir, le principal site connu pour cette période dite antique 1, Corée contemporaine en gros de l'époque achéménide. J'y insiste encore. Moi, je ne vais pas appeler ça une ville. Voilà. Dans la situation frontalière où se trouve ce site, c'est évidemment pas ce qui aurait pu être la capitale du Khorezm si elle a existé à cette époque. Alors, pour cette même époque contemporaine des Achéménides, il y a un autre site qui a donné du matériel très intéressant, qui s'appelle Dingilje. Alors là, c'est un manoir, c'est pas une forteresse. Alors, lui, il est sur la rive droite. Voilà. Dingilje, c'est ici, vous voyez. Donc, Kyuzeligir est ici. Dingilje est ici. Les autres sites indiqués sur ce plan sont en fait peu connus du point de vue archéologique ou très petits. C'est vraiment les deux sites principaux. Voilà, Dingilje est ici. Alors là, on a une architecture tout de même assez raffinée. Donc c'est un manoir bipartite, vous voyez, avec la présence dans plusieurs pièces. Ici on a plusieurs bases de colonnes en briques crues tout autour de la pièce, des foyers centraux dans les pièces, des banquettes, donc des pièces de réception, un certain décorum social. Le site est entouré d'un mur, mais ce mur n'est pas un rempart. Il y a à l'extérieur un bassin maçonné en briques crues, soigneusement maçonné, avec des sols d'argile, etc. Bon. À faible distance du site, ont été trouvés les restes d'une tombe. La voici. Alors, on l'appelle la tombe en albâtre. Alors, en fait, elle a été retrouvée complètement pillée déjà dans l'Antiquité. Voilà les morceaux supposé albâtre. Alors, ce que les archéologues soviétiques appellent albâtre n'est pas ce que nos archéologues classiques appellent albâtre. Quand on lit alabaster dans des publications russes, c'est en fait un mélange de gypse, de cendre et de sable. Ça n'est pas l'albâtre translucide que nous connaissons chez nous. En tout cas, il y avait visiblement un sarcophage qui devait avoir une certaine allure. Là encore, ça ne correspond pas aux pratiques canoniques connues dans le zoroastrisme, mais des tombes en sarcophage, on en a à l'époque achéménide, aussi bien près de Persépolis qu'à Suse. Sarcophages qui sont connus en céramique. Le matériel ornemental montre des affinités, des modèles achéménides. Alors, vu l'échelle, ça c'est toujours un peu le problème de ces publications soviétiques, c'est que il y a une fascination pour le format du timbre-poste. Ici, on a un lion très élégant. Ici, un archer, vous voyez, le lion ici. Alors, c'est plus net avec la vue suivante, où vous avez donc une applique en bronze qui représente la gueule d'un lion. Et vous voyez extrêmement proche, par le rendu, des modèles achéménides de Persépolis. Donc, on reconnaît là, et bon, je souscris à cette observation, une certaine influence du style de vie achéménide sur les élites locales du Khorezm, même dans un contexte rural. Voilà. Je vais laisser pour la prochaine fois un autre site où là, les influences achéménides se marquent d'une manière encore plus spectaculaire, qui est Kalalegir, site beaucoup plus grand. J'avais montré ça lors du premier cours. L'évidence même d'une imitation des modèles achéménides, la tête de griffon du type des griffons de Persépolis, moulé en plâtre pour être reproduite sur place. Alors, ceci dit, ce site pose un gros problème parce que dans toutes les publications jusqu'au travail de Minardi, il a été considéré comme d'époque achéménide, donc contemporain des deux sites dont je viens de parler, Dingilje et Kyuzeligir, mais Minardi fournit des arguments assez solides, pris dans la céramique, pour proposer une date postérieure. Donc on entrerait là maintenant déjà dans une période qui serait contemporaine de la présence grecque dans les régions méridionales d'Asie centrale. Et donc nous examinerons la prochaine fois ce site et les autres sites de cette période qu'on va dire antique 2, 3e siècle avant notre ère, 1er siècle avant notre ère, avant de descendre encore davantage dans le temps. Je vous remercie.